là, tout de suite, je vous propose de retrouver Michel Favret, si on arrive à le joindre au téléphone, excusez-moi. Hein, je rappelle, Michel Favret, c'est notre chroniqueur astronomie. Il intervient régulièrement toute l'année sur les ondes d'O2 Radio. Et là, il est parti en expédition toute la semaine au Pic du Midi. Michel, bonjour.
Oui, bonjour Sandrine.
Alors, ça va bien aujourd'hui?
Ça va bien, un peu fatigué parce qu'on dort pas beaucoup, hein, comme j'avais expliqué lundi.
Oui, alors on va faire un petit retour sur cette expédition d'une semaine, enfin cette mission, excuse-moi Michel. Voilà, donc vous êtes parti depuis lundi, arrivé lundi dans le Pic du Midi, dans l'observatoire.
Voilà, le premier jour, on monte le matériel, on s'installe, on prend le télescope un petit peu en main, donc c'est une journée, on dort pas la journée, alors qu'on devrait le faire puisqu'on va travailler toute la nuit. Effectivement, la nuit de lundi à mardi, il a fait très beau, donc on a observé toute la nuit jusqu'au matin où le ciel devient clair, on peut plus rien faire. Mais comme on sait que le lever de soleil est sympa en général au pic, on attend le lever de soleil avant d'aller se coucher, ce qui fait qu'on se couche vers 7h30, 8h du matin, quoi. En principe, on dort jusqu'à ce qu'on peut. Moi, pas bien tard, je suis pas très bon à ce jeu-là. Mais des collègues arrivent à dormir jusqu'à 14-15 heures et puis c'est reparti pour un tour, quoi. On prépare le télescope, on va dîner, on voit le coucher de soleil, qui est aussi un joli spectacle, et puis après on va attaquer la nuit d'observation. Alors la nuit de mardi à aujourd'hui, la nuit dernière, a été un peu moins bonne. Elle a bien commencé, mais vers 4 heures du matin, ça s'est un peu voilé, on le voyait nous sur les images, le fond de ciel au lieu d'être noir, il devient gris clair de plus en plus. En regardant en réel, on va sur les terrasses voir l'état du ciel avec nos yeux. On a vu que des nuages commençaient à monter, donc on a décidé d'abandonner, quoi, et d'aller se coucher. Ça permet de se reposer un petit peu.
Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu l'objet de cette mission, Michel?
Alors, il y a différentes choses qu'on peut venir faire avec un télescope comme le T60. Disons-nous, cette année, on s'est beaucoup intéressé aux astéroïdes. Donc, dans la nuit de lundi à mardi, on a fait une série d'images. Le principe, quand on cherche des astéroïdes, parce que le but du jeu, c'est d'essayer d'en trouver un nouveau que personne n'a encore découvert.
Donc, oui, on choisit une portion. Déjà, oui. Oui, oui, oui.
On choisit une portion de ciel. On fait une photo. On fait une photo juste à côté, encore juste à côté, et on revient à la première. Donc, entre temps, il s'est passé une dizaine de minutes, le temps qu'on fasse les manipulations du télescope, de la caméra, tout ça. On recommence 3, 4, 5 fois. Je crois que lundi, on l'a fait 4 fois. Et après, mais bon, on n'arrive pas à faire ça en temps réel, donc dans la journée de mardi, on a analysé les images qu'on avait faites, et il semblerait que sur une des images, celle du milieu d'ailleurs, la deuxième, on a un point qui se déplace sur l'image, ça c'est sûr, et un point qui se déplace sur l'image, si c'est pas un défaut de la caméra, un reflet, quelque chose, il peut toujours y avoir quelque chose d'accidentel, on va dire. Ça peut être qu'un objet du système solaire, un corps du système solaire, un petit corps, parce que les gros, on sait où ils sont, les planètes, la Lune, tout ça. Et dans ce cas-là, on fait une vérification pour voir si ça correspond pas à un astéroïde. Ça peut être un astéroïde ou une comète, mais le plus souvent, c'est un astéroïde. Si c'est pas un astéroïde déjà connu, il est dans des catalogues, dans nos cartes, donc là, c'était pas le cas. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est prévenir un centre mondial qui centralise toutes ces découvertes, entre guillemets, enfin, ces découvertes possibles. Donc il s'appelle le MPC, Minor Planet Center, qui est situé aux États-Unis, en Californie. Eux vont enregistrer notre déclaration, si on peut l'appeler comme ça, faire des vérifications de leur côté, c'est-à-dire eux regardent dans une base de données beaucoup plus complète qu'ils ont, si c'est pas un objet déjà connu ou une redécouverte d'un objet déjà connu, puisqu'on peut rester des mois, voire des années sans surveiller un objet, puis le redécouvrir un peu fortuitement. Donc là, on n'a pas de réponse de leur part, ils ont pris en compte notre déclaration. Comme on n'a pas de retour négatif qui nous dit vous avez retrouvé ce truc-là, on pense que c'est potentiellement un bon candidat. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est reconfirmer en refaisant une autre observation le lendemain ou le surlendemain. Donc cette nuit, on a repris là où le MPC nous disait que l'astéroïde devait se trouver, parce que calcule une trajectoire possible. Et on a refait les images, mais là, pour le moment, je peux pas en dire plus, parce que les images de cette nuit, on les a pas encore analysées. On va les analyser dans l'après-midi, et on verra si on a retrouvé notre petit point qui se déplace. Et là, ça peut difficilement être un défaut de notre caméra ou de notre télescope, c'est probablement un vrai objet dans le ciel, quoi.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, cette mission, alors, ça marche bien.
Disons, pour le moment, ça se passe bien, pour cette partie-là. Et on attend la suite, quoi. Voilà.
Alors, on va rappeler un petit peu hein, que la particularité aussi de cet observatoire, c'est que des amateurs peuvent utiliser donc cet observatoire et donc et aussi le matériel. Et là, vous voulez nous parler du télescope T60.
Voilà. Oui, parce que c'est pas l'observatoire hein, qu'on peut utiliser en tant qu'amateur. Je crois que les cheveux du directeur se dresseraient sur la tête s'il nous entendait. C'est un des télescopes. Hein, c'est le T60. Parce que, comme je l'ai dit lundi, c'est le plus petit télescope qui existe encore aujourd'hui sur le site et il serait pas, disons, rentable de le faire utiliser par des professionnels qui ont besoin de plus gros instruments aujourd'hui pour le genre de recherche qu'ils font. N'empêche qu'il peut continuer à faire du bon travail. Et donc, ça a été ouvert aux astronomes. Donc, si on regarde un petit peu en détail l'histoire du télescope, en fait, ce télescope est basé sur un miroir qui a été taillé en 1910. Hein, ça peut surprendre, mais le télescope, le miroir a plus d'un siècle. Il faut bien comprendre qu'un miroir de télescope, ça s'use pas, en fait. Hein. C'est un morceau de verre taillé avec une grande précision. Bon, de temps en temps, il a besoin, je dirais, un petit peu de cosmétique, c'est-à-dire on lui remet une petite couche pour qu'il soit plus réfléchissant, hein, parce qu'à la longue, ça s'abîme et il réfléchit moins bien à la lumière. Mais un télescope, ça peut être utilisé pendant très 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 longtemps, tant qu'il est performant. Donc il s'appelle T60 parce qu'il a un diamètre de 60 cm. Il est très ouvert, alors c'est un peu du jargon, hein, à 3-2, ce qui veut dire qu'en fait, qu'il est très lumineux. Hein, peut-être que certains des auditeurs se rappellent du temps de la photo argentique où sur les objectifs on avait des crans pour régler l'ouverture de l'objectif, hein, du genre 1K, 2, 2, 8, 5, 6, etc. Ben, c'est la même chose. Plus le chiffre est petit, plus c'est lumineux, donc moins il faut de temps pour faire une image, ou à l'inverse, avec le même temps de pose qu'avec un télescope moins lumineux, on verra des objets plus faibles sur l'image. C'est ça l'intérêt, par exemple, dans la recherche d'astéroïdes dont on a parlé juste avant, c'est que nous, on dispose d'un télescope très lumineux, et les astéroïdes qu'on pourrait trouver ne sont pas accessibles à des amateurs qui ont des instruments plus petits. Ils sont pas assez lumineux pour ça. Celui qu'on a trouvé est de l'ordre de la magnitude 20, donc pour faire vite, ça doit être à peu près 10 000 fois plus faible que ce qu'on arrive à voir à l'œil nu dans le ciel, quoi.
Donc,
c'est quelque chose de très très faible.
Un télescope très performant, en tout cas pour
très,
au moins,
très performant.
Au moins pour des amateurs, c'est ça, hein, parce qu'il
voilà.
Est plus utilisé au niveau professionnel.
Disons, c'est du petit professionnel, voilà, on va dire. Hein, c'est du gros amateur ou du petit professionnel. Le genre de travail qu'on fait, c'est un travail utile pour les professionnels. C'est pas que pour jouer, hein, entre guillemets, qu'on fait ça.
D'accord.
Donc, le télescope, le miroir date de 1910. Il est installé dans le Genevois, j'en sais pas plus, donc je pense que c'est un Suisse qui l'avait acheté. Alors, faut imaginer que pour acheter un télescope comme ça à cette époque-là, il fallait être un petit peu fortuné, hein, on va dire. Ça devait coûter assez cher. En 1918, il est venu en France parce qu'il a été acheté par un certain Giuseppe di Gentili, qui l'a installé là où il s'est, dans son jardin, on va dire, sous une coupole, à Buc, dans la Seine-et-Oise. Et en fait, l'histoire est un peu curieuse parce que c'est une famille d'origine israélite, hein, juive, et le fils de Giuseppe, qui s'appelait Marcel Gentili, a été abrité au pic du Midi, à l'observatoire, pendant la dernière guerre, pour échapper aux rafles nazies, quoi. Et en remerciement, en 1946, il a donné le télescope et la coupole, d'ailleurs, qui lui appartenait, à l'observatoire. Mmh. Et il a été exploité par les professionnels jusqu'en 82. Un lundi, j'avais expliqué que c'est à peu près au tournant des années 80-90 qu'on a commencé à travailler sur des télescopes de plus en plus grands, comme ceux du Chili, de Hawaï, ou des télescopes spatiaux. Et c'est là qu'il est devenu moins intéressant pour les professionnels du site. Et plutôt que de le laisser à rien faire, je dirais presque à pourrir dans un coin, c'est assez étonnant pour les amateurs, mais moi j'ai visité certains observatoires du Chili. Dans des grands observatoires, il y a des petits télescopes dans des petites coupoles qui sont plus du tout utilisés, parce qu'ils sont plus assez performants pour les recherches qu'on fait aujourd'hui. Donc plutôt que de le laisser comme ça, je dirais un peu à l'abandon, il a été proposé que ce soit des amateurs qui s'en servent. Donc c'était le directeur Monsieur Zahn de l'observatoire à l'époque, et pour opérer ce prêt hein, du télescope, une association a été créée en 1985. Et donc le télescope fait toujours partie des instruments de l'observatoire, hein, donc c'est l'observatoire qui l'entretient, qui fait des travaux quand il y a besoin. D'ailleurs ce matin il y a encore un technicien qui est venu avec une échelle, alors c'est assez périlleux hein, parce qu'il y a un apic d'au moins 60 ou 80 mètres juste à côté, pour corriger un petit truc, un petit défaut qu'il y avait sur la coupole. Donc il est bien à l'observatoire qui le maintient, qui fait les travaux. Par contre, il est opéré par des amateurs et bien dans une coopération professionnelle amateur. C'est-à-dire on vient pas ici que pour s'amuser à faire de belles images, mais aussi pour faire des images utiles, comme par exemple la recherche de l'astéroïde dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors pour pouvoir monter ici, il y a certaines conditions à remplir. D'abord, il faut être adhérent de l'association. Ça, c'est
oui, bien
minimum,
sûr, c'est ce que j'avais demandé. Tout le monde ne peut pas y aller comme ça. Hein.
Non. Donc, il faut adhérer à l'association pour des problèmes d'assurance et autres. Il faut au moins qu'il y ait un membre de l'équipe, en général c'est le chef de mission, mais il peut y en avoir plusieurs, qui soit déjà venu, qui connaisse le télescope, hein, qu'on puisse le manipuler sans prendre de risque, quoi, et connaître aussi un petit peu le système administratif du site, hein, parce qu'il faut savoir où aller s'adresser pour récupérer les clés des chambres, pour réserver ses repas, etc., quoi. Et en amont, hein, au moins en général un trimestre avant, on dépose une demande de mission en disant quelle semaine on souhaite venir et qu'est-ce qu'on va faire comme travaux. Car s'il y a plusieurs demandes pour la même semaine, le comité qui décide d'accepter l'émission va se baser, disons, sur le contenu de la mission pour dire bah, celle-là est plus intéressante que celle-là, il vaut mieux la privilégier. Et c'est à petite échelle, hein, pour ce petit télescope et l'association, c'est un fonctionnement qui est exactement le même que pour les grands télescopes, des grands observatoires. Les scientifiques qui veulent du temps d'observation sur les instruments font des demandes en argumentant avec les recherches qu'ils sont en train de faire, etc. Et c'est sur cette base que des comités scientifiques décident d'attribuer ou pas le temps de télescope, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de demandes que ce que les grands observatoires peuvent satisfaire, quoi.
Oui, c'est vrai que nous, on n'est pas dans ce milieu-là, mais c'est un milieu qui attire, il y a beaucoup de demandes d'observation.
Il y a beaucoup de demandes. Ben, disons, le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de demandes pour les mêmes semaines, quoi. C'est ça. Il y a des moments où personne n'a envie de venir parce qu'il y a une grosse lune dans le ciel. Les nuits sont courtes fin juin. Donc, au lieu d'avoir 6 heures, à peu près, ce qu'on a en ce moment, 6 heures et demie de nuit noire, on en a un petit peu moins. Donc, dans l'idéal, il faudrait venir en hiver, mais les conditions sont assez rudes ici en hiver. Hein. Mm-hmm. Donc, le genre de semaine où on est en ce moment, c'est celles qui sont les plus demandées puisque c'est une semaine de nouvelle lune. On n'a pas du tout de lune, on a un petit croissant qui se lève à 4h du matin, il ne nous gêne pas du tout, quoi. Et je crois que c'est dans un ou deux jours, ce sera la nouvelle lune, donc là, il n'y aura carrément pas de lune du tout. Donc c'est quelque chose de bon pour nos observations, puisqu'en fait, le ciel est beaucoup plus noir et les objets faibles ben, apparaissent mieux sur un ciel bien noir que sur un ciel qui est légèrement éclairé par la lune, quoi.
D'accord, alors on en est où alors, du coup? Là, vous avez créé un projet de mission, vous avez été accepté, et qu'est-ce qu'il faut faire après?
Eh ben après, une fois que la mission est acceptée, il y a un certain nombre de petits formulaires administratifs à remplir pour réserver les chambres, pour la remontée. On reçoit un pass qui nous permet d'arriver le lundi matin et que on sache que c'est bien nous qui arrivons et que c'est prévu qu'on monte, etc. Quoi. Donc il n'y a pas de souci.
Et le contenu de vos recherches, c'est à rendre un petit peu? Enfin, vous devez faire un compte-rendu?
Ah oui, à la fin, il faut faire un compte-rendu et c'est obligatoire. Hein, parce que si on oublie de faire le compte-rendu, on n'est pas obligé de le faire le lendemain. Hein, ça peut attendre un mois ou deux ou un peu plus. Mais si on fait pas de compte-rendu, la prochaine fois qu'on demandera une mission, on va nous dire, bah, vous êtes bien gentil, mais faites d'abord le compte-rendu de la dernière et on verra si ça vaut le coup de vous donner une semaine de plus, quoi.
D'accord.
Voilà. C'est assez logique. Hein.
Comment va se passer la suite de cette mission, Michel, alors?
Alors, j'ai parlé de la recherche d'astéroïdes, mais on a fait d'autres choses. Hein. On a fait des, entre guillemets, on appelle ça entre nous des belles images, puisqu'on devait apprendre à deux nouveaux qui sont montés avec nous, qui n'avaient jamais vu le télescope, à s'en servir. Donc, quitte à faire des exercices, on va dire, autant le faire sur des images qui servent à quelque chose. Donc, on a fait une photo d'une galaxie et d'un amas de galaxies lundi soir avant d'attaquer la recherche d'astéroïdes. Hier soir, donc comme je l'ai expliqué, cette nuit, hein, la nuit dernière, l'objectif principal c'était de confirmer cette observation d'un possible nouvel astéroïde, mais on ne pouvait le faire qu'à partir de 2h du matin à peu près, hein, 1h, 2h du matin, le temps que ça monte assez haut dans le ciel pour qu'on puisse pointer le télescope dessus, hein, il y a des contraintes comme ça. Et donc en attendant, on a fait autre chose, qu'on appelle de la photométrie, c'est-à-dire la mesure de luminosité d'un objet. Et pour ça, on a suivi un autre astéroïde, alors qui lui est très très connu, hein. Enfin pas très connu, mais je veux dire qui est bien connu dans les bases de données. Il a un numéro, il s'appelle Paloma. Et dans une page, disons, de coopération entre les professionnels et les amateurs, on demandait particulièrement de mesurer celui-là, parce qu'il a une courbe de lumière, on appelle ça comme ça, un peu particulière. Alors la courbe de lumière, c'est facile à comprendre de quoi il s'agit. Les astéroïdes, hein, tout le monde en a déjà vu, je pense au cinéma ou dans des documentaires, ça ressemble souvent à des structures un peu bizarres en forme de patates ou de cacahuètes. Quand ils tournent, hein, parce que tout bouge, hein, dans l'espace, quand ils tournent, ben, la réflexion du soleil, hein, c'est ça qu'on voit sur Terre de l'astéroïde, en fait c'est le soleil qui se réfléchit à sa surface, et ben, en fonction des faces qu'il va montrer au soleil, il va être plus ou moins lumineux. Et en enregistrant comme ça des dizaines de courbes, hein, pas sur une seule, les professionnels aujourd'hui ont des outils qui permettent de reconstituer sa forme en 3D. Et donc là, il y a apparemment une courbe un peu particulière. Moi, j'en connais pas assez pour comprendre ce qu'elle a de spécial. On voit bien que la forme de la courbe est bizarre avec deux bosses. Donc on demande de l'observer, et quand on choisit les objets qu'on va faire pendant la nuit, ben on se base sur ce genre de page où on nous dit quitte à faire un astéroïde, faites plutôt celui-là que n'importe quel autre, quoi. Donc on a suivi cet astéroïde pendant 2 heures, on a fait des images toutes les minutes pendant 2 heures. Là aussi on n'a pas encore eu le temps d'analyser les images, mais ça va simplement se traduire par une courbe de luminosité de l'astéroïde, et c'est cette courbe, enfin c'est les données de la courbe qu'on enverra au site où les professionnels vont les récupérer pour faire leurs propres analyses, quoi.
Oui, parce qu'on le rappelle, que le travail des amateurs sert aussi pour les professionnels de l'astronomie.
Oui, alors si je prends l'exemple de cet astéroïde Paloma, il faut faire sa courbe de lumière, il faut la faire complètement, et de plus en plus précisément, si on peut, pour bien comprendre ce qui se passe. Mais l'astéroïde, il fait un tour sur lui-même en 8 heures. Il va pas rester dans le ciel 8 heures, en ce moment on a 6 heures de nuit. Donc nous, en fait, en 2 heures, ce qu'on a fait, c'est un petit bout de la courbe. Mais quand on regarde, il y a un autre amateur qui a peut-être un mois ou deux a fait un autre petit bout, puis un autre qui a fait un autre petit bout, puis c'est en compilant toutes ces données qu'on va pouvoir faire la courbe complète. Et je pense que les auditeurs comprennent bien que c'est plus facile à obtenir ce résultat avec plusieurs amateurs, voire plusieurs dizaines d'amateurs qui font l'observation avec différents télescopes à différents endroits. Si on devait bloquer un instrument d'un grand observatoire juste pour faire ça, ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour arriver au résultat. Et c'est plus efficace de travailler, disons, en équipe, comme ça, un peu en réseau, c'est l'idée. Et comme je l'ai dit lundi, l'astronomie, c'est un domaine scientifique dans lequel la coopération entre les amateurs et les professionnels a toujours été très, très, très active.
Bon, on espère que ça va continuer. Alors, Michel Favret, on arrive en fin de journal. Donc, normalement, on se retrouve vendredi, ça sera le dernier jour de votre mission. Donc, j'espère que vous serez réveillé, Michel Favret. Voilà. Ça commence à être dur, peut-être, un petit peu.
Ben, je pense que d'ici vendredi, ça pourrait aller, parce que malheureusement, on nous annonce plutôt des mauvaises conditions météo. Donc, il se pourrait bien que dans les prochaines nuits, on dorme plus qu'on observe. Malheureusement, parce que nous, on préfère observer plus. Mais la météo s'annonce pas très bonne pour cette nuit et pour la suivante aussi. Donc, peut-être que d'ici vendredi, on n'aura pas fait grand-chose et on aura un peu plus de repos. Donc, si c'est possible, vendredi, je les rencontre tout à l'heure. D'ailleurs, on déjeune ensemble, pour dire, entre les différents télescopes, il y a toute... comme ça, je dirais, des relations sociales qui se nouent, on est sur un petit site, on n'est pas très nombreux, donc c'est facile à comprendre, on mange chez les uns, chez les autres. Donc à midi, on va déjeuner avec les personnes qui opèrent un des instruments qui s'appelle le coronographe, donc qui lui observe le soleil, donc ils sont complètement décalés par rapport à nous, puisqu'ils observent le jour et ils dorment la nuit. Et c'est à son sujet du coronographe que je pensais qu'on pourrait orienter notre discussion vendredi, parce que c'est aussi un instrument qui est opéré par une association d'amateurs.
Bon, très bien, on parlera peut-être plutôt de l'observation du soleil ce vendredi. Puis quand même, vous nous tiendrez au courant sur cet astéroïde que vous avez peut-être vu et qui serait donc une découverte. Donc voilà, si le centre mondial, le MPC, alors, le Minor Planet Center, vous la confirme ou pas.
Il faut pas aller trop vite, je sais bien que dans radio on aime bien les scoops, mais ouais. Il faut d'abord qu'on analyse les images aujourd'hui, et dans les réponses que le fameux MPC nous a faites, ils nous préviennent que comme on est en période de nouvelle lune, je viens de vous l'expliquer, ouais. Il y a beaucoup d'astronomes qui essayent d'observer des astéroïdes et d'en découvrir, et donc ils sont un petit peu submergés par les demandes, donc ils répondent pas très vite, donc ils nous annoncent déjà qu'il se peut que les réponses n'arrivent qu'au bout de 48 ou 72 heures. Donc on n'est pas sûr que d'ici vendredi on aura un retour, une confirmation positive, simplement pour des délais de traitement.
Voilà. On verra bien vendredi. En tout cas, je vous remercie, Michel Favret, et puis pour les auditeurs qui se passionnent pour l'astronomie en général, et notamment cette mission menée par Michel Favret et son association, on retrouve des photos sur notre Facebook Aude Radio. Michel Favret, merci, et puis à vendredi alors.
Et bon ciel.
Merci. Au revoir.